Bienvenue sur Ménopausée, le podcast qui questionne la ménopause à travers des portraits de femmes. Nos invités y racontent, sans tabou, l'impact de la ménopause sur la vie des femmes ou comment elles ont profité de ces années pour réinventer leur quotidien. Si vous traversez la ménopause, n'hésitez pas à télécharger notre application de santé dédiée au sujet, Omena. Maintenant, place au podcast. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec la docteure Odile Bagot, gynécologue obstétricienne, autrice du blog Mam Gynéco, où elle parle de gynécologie aux femmes depuis 2013, et qui a lancé une page Facebook du même nom, regroupant 5000 femmes. Elle est également autrice de plusieurs livres, dont Ménopause, pas de panique, publié en 2019 aux éditions Mango. Elle fait tout ça en plus de sa pratique de gynécologue de ville, à Strasbourg, de ses articles dans Doctissimo et autres, et de ses multiples passages à la télé. Odile, merci, dans votre agenda chargé, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Ménopausée.
Merci Jane de m'avoir invitée. C'est vraiment avec grand, grand plaisir que je viens parler de la ménopause parce que c'est mon sujet préféré, à la fois en pratique, dans le vécu, dans mon vécu, mais aussi tout ce que je peux apporter aux femmes, je veux dire, de positif et de sympa, parce que figurez-vous que la ménopause, quoi qu'on en dise, c'est le plus souvent très sympa, et si c'est pas très sympa, on a vraiment, vraiment le moyen d'aider les femmes.
Donc c'est pour ça que vous êtes venue sur ce podcast, que vous avez accepté mon invitation.
Exactement, parce que d'abord j'aime partager, et puis les femmes de plus de 50 ans, c'est des nanas super, elles ont des potentialités extraordinaires, il faut juste leur donner quelques clés, et je suis là pour ça.
Je suis bien d'accord. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes ménopausée ?
Ah ben, je suis gravement ménopausée depuis pas loin de 15 ans, je pense, hein, puisque j'ai 64 ans. Et ben, cette ménopause, pour moi, ça a été un passage naturel, parce que ça fait partie d'une évolution naturelle. Je ne vous cache pas que j'ai peut-être un tout petit peu triché quand même, parce que les bouffées de chaleur, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup enquiquiné. Et je n'ai pas attendu l'année réglementaire d'un an sans règles pour commencer à prendre un petit peu des hormones. Mais vraiment, c'est réservé au professionnel qui peut bidouiller son affaire. Hein. Pour toutes les femmes, il va falloir tenir la fameuse année sans règles. Et après, s'il faut, et si on n'a pas de contre-indication, une fois qu'on a fait disparaître ces fichues bouffées de chaleur, mais c'est le paradis, la ménopause. Le paradis, je vous le dis.
Puisqu'on commence à parler de définition de la ménopause, est-ce que vous seriez d'accord pour me faire le petit topo, peut-être de 3 minutes sur la ménopause que vous faites à vos patientes quand vous commencez à leur en parler?
Avec plaisir. Alors, le plus important, c'est de définir la ménopause. On ne parle pas de ménopause tant qu'on n'a pas un an complet sans règles. Ça, c'est le plus important. Alors, il y a des femmes qui arrivent avec un petit papier du biologiste en disant « Mon médecin traitant m'a prescrit là l'hormone de la FSH, là, l'hormone de la ménopause. C'est écrit que je suis dans la période de ménopause, mais j'ai encore eu mes règles il y a 3 mois. » Non, ce n'est pas la ménopause. On ne s'occupe pas de ce dosage hormonal. On attend l'année complète sans règles. Et puis la ménopause, comment va la ressentir la grande majorité des femmes? Ça va être quand même des bouffées de chaleur. Donc ça, parfois elles disent « Oh oui, je me réveille la nuit, je suis en nage, je suis en sueur. » C'est une bouffée de chaleur, ça. C'est pas forcément devenir rouge comme une cocotte et puis avoir très très chaud. Souvent, c'est des suées nocturnes. Ça, c'est vraiment le début de la ménopause. C'est le signe le plus fréquent. Et je dis aux dames, attention, avec le temps, soyez un peu vigilantes par rapport à la sécheresse vaginale. Parce que autant les bouffées de chaleur, au bout d'un certain temps, hein, enfin, au bout de 5 ans, la moitié des femmes ménopausées a encore des bouffées de chaleur, hein, ça fait beaucoup. Mais ça va aller peut-être en diminuant. En revanche, la sécheresse vulvo-vaginale et les troubles urinaires, ce qu'on va appeler le SGUM, syndrome génito-urinaire.
Magnifique nom.
J'adore le SGUM, syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ça va venir avec le temps. Et là, il ne faut pas que les femmes le subissent et surtout subissent les conséquences sexuellement. Donc voilà, grosso modo, je leur dis, les bouffées de chaleur, on va s'en occuper, mais il faut attendre un an sans règles.
Et vous pensez que vous avez fait ce topo à combien de femmes?
J'en vois pas mal quand même, toutes les femmes qui viennent me demander si elles sont ménopausées. Première question, c'est quand étaient vos dernières règles? Il y en a, je ne sais pas, des centaines, hein, parce que ça fait quand même, Seigneur Dieu, depuis 90 que je suis installée, donc en libéral, 85 que je fais de la gynéco, donc pas loin de 40 ans. C'est des milliers de femmes, je pense.
Okay, donc, vous êtes bien placée pour parler du sujet.
A priori, je connais le sujet.
Et est-ce que vous parlez de ménopause aux femmes qui n'ont pas encore de symptômes? Disons à 35-40 ans, pour une femme qui n'a pas particulièrement de ménopause précoce, ni rien.
Il n'est pas question de parler ménopause à des femmes plus jeunes, parce que paradoxalement, quand elles sont loin de la ménopause, elles en ont très très peur. Elles ont l'impression que c'est la fin du monde, c'est la fin de la jeunesse, c'est l'entrée vraiment vers la vieillesse. Et paradoxalement, plus elles se rapprochent de cette période-là, eh bien, plus il y a une adaptation qui se fait et elles en ont moins peur. Parler de ménopause à une femme de 40 ans, c'est terrible. Parfois, à 40 ans, alors que ce n'est pas du tout l'âge, hein, ça commence plutôt la transition ménopausique vers 45 ans. Je vois parfois des femmes arriver 40 ans en disant « Bon, bah écoutez, je viens parce que voilà, je vais commencer la ménopause. » Je dis « Mais attendez, il n'y a aucune raison, elles n'ont pas de symptômes, elles ont toujours leurs règles, donc ce n'est pas le moment. » Mais ça effraie, comme toutes les choses qu'on ne connaît pas, sont effrayées parce qu'elles ne connaissent pas. Et quand les femmes sont dans cette période-là, bah, paradoxalement, c'est moins tabou et ça fait moins peur.
Et est-ce que vous avez des patientes qui sont très heureuses de traverser la ménopause, qui le voient comme un soulagement ou...
Il y en a qui l'attendent avec une impatience inouïe, celles qui sont enquiquinées avec leurs règles, des femmes qui ont des règles hémorragiques, qui ont des règles douloureuses, je pense aux femmes qui ont une endométriose par exemple, et pour elles la ménopause ça va être un soulagement. Les femmes qui ont un trouble dysphorique prémenstruel, on n'en parle pas beaucoup, hein. C'est un syndrome prémenstruel mais avec une composante psychique même psychiatrique énorme. Difficile de trouver des solutions, c'est aussi un autre sujet dont je m'occupe pas mal, leur solution, ce sera la ménopause. J'ai été confrontée à des femmes de 35 ans qui me suppliaient de les mettre en ménopause quelques mois pour ne plus subir ça, parce que c'est un gros handicap. Donc celles-ci, elles seront ravies d'être ménopausées. Celles pour qui la contraception, ça a été un casse-tête toute leur vie. Plus de contraception, mais quel bonheur. Donc il y a des femmes qui l'attendent et qui vont avoir des réels bénéfices à être ménopausées.
Et est-ce qu'au contraire, vous avez des femmes qui ont vraiment, vraiment galéré à la ménopause, des patientes ?
Alors, des femmes qui ont vraiment galéré, et si elles ont vraiment galéré, c'est vraiment sur, en général à cause des bouffées de chaleur, hein, et qui n'ont pas pu avoir de solution. Parce que pour ce symptôme qui est vraiment important, on a une solution qui marche à tous les coups, qui est le traitement hormonal de la ménopause. Mais celles qui n'y ont pas droit en particulier, celles qui ont eu un cancer du sein, et elles ont vraiment beaucoup souffert, parce que elles ont un cancer du sein entre, on va dire, 45 et 50 ans. Elles vont avoir une chimiothérapie qui va les mettre violemment et brutalement en ménopause. Et quand la ménopause arrive aussi brutalement, elle est souvent plus difficile à vivre que lorsqu'elle arrive progressivement. Et en plus, ces femmes ont une contre-indication absolue au traitement hormonal. Pour elles, ça va être difficile parce qu'elles ont quasiment triple peine. Elles ont leur cancer du sein, elles ont la ménopause qui arrive. Souvent, elles ont des traitements, on appelle ça traitement hormonal, mais en fait, c'est un traitement anti-hormonal qui va bloquer toute source d'œstrogène, donc leur ménopause va être encore plus bruyante, plus difficile à vivre, et on est un peu démunis, question moyen. Ça, c'est vraiment pour ces femmes-là, c'est très très dur, même si prise, en tout cas au début, dans leur traitement, leur préoccupation principale, c'est de sauver de leur peau, hein, c'est de lutter contre leur cancer. Mais ensuite, une fois que tout ça est un peu derrière elles, la ménopause est souvent difficile à vivre quand même.
Est-ce que vous avez des choses à proposer à ces femmes-là ?
On essaye de proposer tout ce qui est possible, mais qui n'a pas d'effet hormonal. Donc, on a des traitements en phytothérapie, mais dès que c'est des phytoestrogènes, c'est contre-indiqué. Donc, on va vraiment proposer. Alors, je sais qu'en homéopathie, là, il n'y a pas de contre-indication, on peut les aider. On peut faire de l'acupuncture. Mais là, il faut souvent répéter les séances, ce n'est pas évident. On a des produits à base de pollen purifié qu'on peut donner à ces femmes-là. Donc, on a pas mal de choses en alternatif. Et puis, on a toute une prise en charge globale, hein, que ce soit la méditation pleine conscience. Alors, l'activité physique, on la propose toujours parce qu'on sait que ça fait du bien au corps en général. Malheureusement, on n'a pas démontré de bénéfices sur les bouffées de chaleur. Après, on parlait d'activité physique, mais se sentir bien dans son corps, c'est essentiel. Donc, on va essayer vraiment de les accompagner avec tout ce qui va être complémentaire comme traitement.
Oui, il y a deux symptômes dont vous parlez beaucoup, donc les bouffées de chaleur ou les suées nocturnes, le pendant nocturne des bouffées de chaleur, et le sgum, de son joli nom, donc la sécheresse de la zone vaginale en gros. Est-ce que c'est les symptômes qui vous alertent le plus chez les patientes, puisqu'il y a pléthore de symptômes de ménopause et pas que ces deux-là ?
Oui, alors ça c'est les symptômes que d'ailleurs les femmes vont présenter le plus souvent et dont elles vont parler. Parce qu'il faut bien distinguer, il y a une étude très intéressante qui a été faite, non pas de dire quel est le pourcentage de femmes qui a de bouffées de chaleur, mais quels sont les symptômes dont les femmes vont se plaindre le plus. Et effectivement, en numéro 1, ce sont les bouffées de chaleur. En numéro 2, les troubles de l'humeur, du sommeil et de la sexualité liés entre autres à la sécheresse vaginale. Donc, c'est vrai que ces deux symptômes-là, c'est vraiment ceux pour lesquels les femmes vont venir consulter. Maintenant, il faut qu'on fasse le tri aussi sur, concernant les troubles de l'humeur. Il y a des vraies dépressions qui arrivent à la ménopause. Donc, la femme, elle n'avait aucun problème, elle n'avait jamais fait de dépression, elle est ménopausée, bam, elle tombe en dépression. Et la traitement hormonal, si elle a eu droit, si elle y a droit, eh ben, va la sortir forcément de cet état-là. Et puis, il y a une confusion souvent dans la tête des femmes entre le passage de la cinquantaine et en fait le vieillissement, ou alors les symptômes liés à l'âge et les symptômes liés à la ménopause. Donc, il y a un exemple tout à fait caractéristique, c'est la question du poids. Alors, elles viennent toutes me dire « Ah, si j'ai pris du poids, docteur, c'est à cause de la ménopause. » Erreur, grossière erreur. Parce que si on regarde l'évolution du poids, les femmes n'ont pas un poids normal jusqu'à 50 ans, et puis tout d'un coup, à 50 ans, elles sont ménopausées, elles prennent 10 kilos. C'est faux. Ça commence déjà aux alentours de 40-45 ans. Et moi qui pèse mes patientes à chaque fois qu'elles viennent tous les ans, j'ai la preuve dans mon dossier que non, madame, votre prise de poids, elle a déjà commencé il y a 5, 6, 7 ans. Et ça, c'est un effet du vieillissement. Parce que avec l'âge, et les hommes sont concernés aussi, à partir de 40 ans, ils se prennent un petit bidon, hein, faut pas rêver, on va avoir ce qu'on appelle une sarcopénie. C'est-à-dire qu'on va perdre du muscle. Trois raisons. La première, parce que c'est l'évolution naturelle des tissus. On va perdre plus de masse musculaire qu'on est capable d'en fabriquer. Hein. On va souvent réduire un petit peu l'activité physique malgré tout, on en fait un petit peu moins et puis on apporte souvent un peu moins de protéines dans son alimentation. Et le pire, c'est que quand on prend des protéines, eh bien notre corps va dévier ces protéines vers les viscères qui doivent vivre plus longtemps plutôt que les emmener au muscle. Donc on a mille et une raisons pour perdre du muscle. Or, le muscle brûle 80% de nos calories, y compris quand on dort. Donc si on mange pareil, si on bouge pareil, à partir de 40 ans, on va prendre du poids. Et ce n'est pas la faute aux hormones, ni à la ménopause.
Voilà. Hyper clair. Et alors, pourquoi pensez-vous que vos patientes ont l'impression que c'est la ménopause qui cause la prise de poids ?
Parce que quoi qu'il arrive dans la vie d'une femme, c'est toujours la faute aux hormones. Un coup, c'est parce que je vais avoir mes règles, un coup, c'est parce que j'ovule, un coup, c'est à cause de la pilule, un coup, c'est à cause de la grossesse, et ainsi de suite. Donc, c'est un phénomène normal, c'est-à-dire que chaque femme a envie de trouver une explication logique à un symptôme. Or, les femmes sont quand même soumises à des orages hormonaux tout le temps. Et donc, on a vraiment envie d'essayer de l'expliquer par ça, par les déséquilibres hormonaux, plutôt que se dire « je suis juste en train de vieillir ». Parce que ça, c'est quand même pas toujours drôle non plus.
Moi, je vous écouterai, votre explication était très claire. Elle m'a tout à fait convaincue. Nous, on voit beaucoup d'utilisatrices de l'application mobile qui se plaignent un peu de la prise en charge par leur médecin de leur ménopause. Est-ce que vous comprenez pourquoi ou est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de femmes qui s'en plaignent ?
Oui. Alors, les médecins, comme les femmes, ont subi en 2002-2003 l'effet dévastateur de ces études américaines, en particulier la WHI, concernant le traitement hormonal de la ménopause, où on a fait peur à tout le monde en disant « attention, le traitement hormonal de la ménopause, vous allez faire des accidents cardiovasculaires et vous allez augmenter votre risque de cancer du sein ». Les études, même si elles étaient discutables, effectivement ont amené des chiffres en ce sens-là. Mais à ce moment-là, ça a mis un coup de frein, mais phénoménal, à tous les traitements hormonaux. Aujourd'hui, on paye la facture avec des fractures du col du fémur, parce que ces femmes ont, à ce moment-là, développé leur ostéoporose qu'elles n'auraient pas développée si on n'avait pas arrêté le traitement. Or, ces traitements n'ont rien à voir avec les traitements qu'on donne en France. Et on a aujourd'hui une grande étude sur plus de 100 000 femmes, 10 ans de recul, qui montre que si on utilise la progestérone et des œstrogènes biosimilaires, on n'augmente ni le risque de cancer du sein ni le risque vasculaire les 5 premières années. Mais cette information, et on le sait, les informations négatives, elles passent toujours mieux que les informations positives. Elle est aussi restée ancrée dans la tête, en particulier des médecins généralistes, qui, eux, ils ne peuvent pas tout suivre et tout voir, n'ont pas vu peut-être l'évolution des études qui montrent « mais si vous pouvez soulager des femmes avec un traitement hormonal de la ménopause ». Et ça, je pense que les femmes ont subi cet effet négatif, mais les médecins aussi, et c'est pour ça qu'elles n'ont peut-être pas l'écoute qu'il faudrait pour leur ménopause. Et d'un autre côté, Moi, ça m'arrive aussi. Hein. Quand j'ai une femme qui vient avec ses symptômes absolument terribles et elle ne veut pas de traitement hormonal parce qu'elle a peur, parce que ça va me donner le cancer et ainsi de suite, à un moment, je lui explique. Mais si je vois qu'elle a vraiment trop peur, ben, voilà, j'arrête. Je n'insiste pas forcément autant qu'il faudrait le faire. Parce que ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'une femme qui va développer un cancer du sein en France, c'est une femme sur 7 à 9 selon les régions. Elle n'a pas plus de risques avec son traitement hormonal. Ça, c'est tout à fait clair, les 5 premières années. Mais elle n'en a pas moins non plus. Et donc, si elle fait un cancer du sein sous traitement hormonal, le premier truc qu'elle va dire, c'est à cause de mon traitement hormonal. D'abord, parce qu'on va lui demander d'arrêter son traitement. Donc, la relation cause à effet, ça va être évident pour elle, même si mathématiquement, ce n'est pas aussi juste que ça. Et en plus, la plupart des cancers du sein sont dits hormonodépendants, parce qu'ils ont des récepteurs aux hormones sur les cellules cancéreuses. Ce qui est un bon signe, en fait. C'est de bons pronostics. Mais pour Madame Tout-le-Monde, hormonodépendant, donc, ça dépend du traitement hormonal que j'ai pris. Donc, raison supplémentaire pour accuser le traitement hormonal. Et du côté du médecin, eh ben, il va se sentir coupable. Parce que la femme va dire, « Ah, si vous ne m'aviez pas convaincue de prendre le traitement, je n'aurais pas eu mon cancer du sein. » Tout ça, c'est faux. Mais ça reste dans une certaine logique. Et même si on sait que les cancers du sein qui sont développés sous traitement hormonal sont de meilleurs pronostics, ça va jeter un trouble. Et parfois, les médecins pris dans leur dans la course un petit peu au temps, etc., vont dire « bon, ben, allez, je ne vais pas me prendre la tête à insister ». Et c'est très dommage. Et ce n'est pas mon cas parce que je crois que ça vaut le coup. Et je pense que ce que je viens de vous expliquer, je l'explique à mes patientes. Et elles sont tout à fait capables de le comprendre. Et j'ai eu des femmes qui ont fait des cancers du sein sous traitement hormonal. Infiniment moins que le nombre de femmes qui n'avaient pas de traitement, qui ont fait de cancer d'ailleurs dans ma patientèle. Eh bien, ces femmes, jamais aucune n'est venue me reprocher de lui avoir donné un traitement hormonal. Au contraire, elles me disent « au moins j'ai pu vivre mes premières années de ménopause sereinement ». Ça, c'est pas mal, non ?
Donc, il y a pas mal de travail à faire d'information sur le traitement hormonal à la fois auprès de la population, enfin des femmes, et des médecins.
Et des médecins aussi. Et ça, moi, je le fais régulièrement. Hein. Je donne des formations, que ce soit de l'e-learning dans les opérations de formation de médicale continue obligatoire. J'ai des soirées avec des médecins. J'en parle aussi sur les réseaux ou dans les médias. Et c'est vraiment important aussi de déculpabiliser les médecins par rapport à ça et de leur donner une bonne information.
Est-ce que y a un problème peut-être avec les recommandations de la HAS actuelle ?
Oui, alors notre HAS est quand même plus que frileuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est déjà largement en deçà de ce que proposent les sociétés savantes, par exemple en Grande-Bretagne. Actuellement, la HAS recommande le traitement hormonal si on a les troubles climatériques, donc c'est les fameuses bouffées de chaleur et les légumes, importants, ayant un impact sur la qualité de vie. Or, nos propres sociétés savantes, que ce soit le Collège national des gynéco-obstétriciens ou bien le GEMVI, donc le groupe d'études de la ménopause, qui connaissent vraiment le sujet, maintenant proposent le traitement hormonal en disant qu'il faut aussi le donner aux femmes à risque d'ostéoporose, même si elles n'ont pas de troubles climatériques. Parce que cette ostéoporose est un vrai problème de santé publique, hein, parce que on sait que la fracture du col du fémur, alors l'âge moyen c'est 80 ans, hein, mais on a plus de, dans les deux ans, on a 25% de décès. Hein. Donc c'est quand même le témoin, c'est vrai, d'une fragilité. Et les traitements qu'on a pour l'ostéoporose conventionnelle, dont les fameux bisphosphonates, ne sont pas sans effet secondaire. Et surtout, on ne peut pas les donner plus que 5 ans. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Alors qu'un traitement hormonal de la ménopause qui est pris tôt, hein, on attend la fameuse année hein, réglementaire, hein, ça je le dirai plus d'une fois, un traitement hormonal commencé tôt va ralentir la perte osseuse. Au moment de la ménopause, on a deux phénomènes qui se passent, qu'on ne voit pas, mais qui ont un impact énorme sur la santé. On a une perte de la masse osseuse, hein, et on a une augmentation du risque vasculaire, puisque les vaisseaux vont se rigidifier, ils ont besoin d'œstrogènes naturels pour rester souples. Et donc, cette chute, cette cassure de la courbe hein, de densité minérale osseuse, elle est vraiment ralentie par le traitement hormonal. Et donc là, on va gagner quelques années. Les femmes qui ont de toute façon un risque d'ostéoporose, eh bien, au lieu d'être à un seuil fracturaire à 52-53 ans, ce sera 60 ans ou plus tard. On a gagné 10 ans. Et le traitement hormonal, il aura évidemment d'autres bénéfices.
Est-ce qu'il y a d'autres manières de prévenir l'ostéoporose ?
Le but, c'est d'arriver avec une bonne densité minérale osseuse à 50 ans. Alors, qu'est-ce qui va être ? Alors, on a 25% des ostéoporoses à son génétique. Là, vous ne pouvez pas changer de géniteur, c'est trop tard. En revanche, l'activité physique va minéraliser l'os. Un apport calcique en calcium suffisant va minéraliser l'os aussi. Ne pas oublier que l'os, c'est du calcium, mais aussi une trame protéique. Cette trame protéique, elle va aussi diminuer avec l'âge. Donc, il ne faut pas oublier d'apporter des protéines. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut se bourrer de viande parce que c'est bien à aucun niveau, mais dans les légumineuses, dans les oléagineux, etc., on trouve de la protéine. Et puis, donc, l'activité physique va permettre aussi de garder ça. Et, essentiel, la vitamine D. La vitamine D, tout le monde est carencé en vitamine D, en particulier en hiver. Puisque pour fabriquer de la vitamine D, il faut exposer son corps au soleil, 15 minutes à poil au soleil, ça vous fait votre dose. Donc, on ne peut pas se mettre à poil, ça va être dur, c'est dur à trouver. Donc, surtout en hiver, il faut impérativement prendre une supplémentation hivernale de vitamine D. Avec ça, déjà, on va arriver avec un stock osseux qui est pas mal à la ménopause. Et puis, toutes ces consignes, évidemment, on va les garder pour la suite. C'est déjà une bonne prévention, non ?
Super, super prévention. Est-ce qu'en écrivant le livre sur la ménopause, qui est donc sorti il y a 4 ans maintenant, t'as appris des choses sur la ménopause ?
Oui. Alors, j'ai appris quelque chose sur la ménopause parce que tout ce que je dis, et moi, le but, c'est vraiment, il n'y a aucune affirmation dans tous mes écrits et dans mes livres qui ne soit corrélée et confirmée par une publication. Donc, j'ai appris pas mal de choses, justement, concernant l'hygiène de vie, l'activité physique, l'alimentation. Hein. Donc, voilà, les apports calciques, protéiques, etc. Donc, ça, c'était intéressant. J'ai revu, évidemment, toutes les études concernant les risques ou les faux risques. Donc, les études qui allaient à l'inverse de ça, ça, c'était tout à fait intéressant. Et alors, ce que j'ai surtout appris tout récemment, parce que c'est sorti fin 2021, le Collège national des gynéco-obstétriciens a fait toute la revue de la littérature sur toutes les études qui sont sorties concernant la ménopause et le traitement hormonal de la ménopause. Et là, donc, c'était il y a quelques mois, puisque je l'ai fait pour écrire un grand séminaire de 7 heures sur la ménopause. Et bien, ce que j'ai appris de nouveau, c'est traitement hormonal et cancer. Et j'ai eu confirmation que le traitement hormonal de la ménopause diminuait les risques de cancer du côlon, ça je le savais, mais de l'estomac et du pancréas, ce que je ne savais pas, que le traitement hormonal n'augmente pas le risque de cancer du sein ni celui de l'endomètre, ce qui est pas mal, mais il augmente un peu le risque de cancer de l'ovaire, en revanche. Sachant que le cancer de l'ovaire, c'est une incidence de 5000 par an, le cancer du sein, c'est plus de 50 000. Donc, c'est vrai que ça augmente un peu le risque de certains cancers de l'ovaire, mais diminuer le risque de cancer de l'estomac, du pancréas et du côlon, ça vaut le coup quand même. Donc là, j'ai appris des nouvelles choses, mais il faut toujours être à l'affût des derniers articles.
Oui, c'est dommage que cette publication-là n'ait pas eu autant de bruit que celle de la WHI.
Exactement. Et ce qui est intéressant, même la WHI et la NHS, ces deux études, et là, toutes les études qu'a colligé le collège, toutes ces études ont montré qu'il y avait une amélioration de la mortalité. Il y a moins de mortalité chez les femmes traitées par un traitement hormonal de la ménopause, y compris dans les études de 2002 et de la WHI. Mais qui l'a dit sur les ondes ? Ça, personne. Or, c'est une réalité.
Est-ce que vous pensez que le fait qu'on ne parle pas énormément de ménopause empêche aussi à l'information sur, la nouvelle information juste sur le THM à circuler ?
Est-ce qu'on ne parle pas assez de la ménopause et est-ce qu'il faut vraiment parler tout le temps de la ménopause ? Alors, c'est sûr que c'est votre job, hein. Ça, c'est sûr.
J'en ai vu très, très biaisé sur la question.
Voilà, donc la vie est un peu biaisée. J'ai quand même l'impression que ces dernières années, le sujet intéresse davantage, que les femmes s'informent plus que ce n'était le cas auparavant. Avant, ça faisait partie des fatalités de la vie. Hein. Alors, je parle des femmes... il y a de l'âge de ma mère, hein. Donc 90 ans, quand je leur demande votre ménopause, ça s'est passé comment ? Je ne me souviens ni quand ni comment. Elles avaient d'autres sujets, on va dire, plus de survie, on va dire. Maintenant, et heureusement, hein, à 50 ans, on est encore jeune, on a envie de vivre pleinement, on a envie de prendre sa santé en main. Donc c'est important qu'on en parle aussi, hein, de la ménopause. Et ce sujet, ben, je crois qu'il est traité maintenant à sa juste valeur. Il ne faut pas non plus, et c'est un peu une tendance de notre société, hein, de mettre de la pathologie sur tout. Mmh. Hein, je veux dire, dès que voilà, on a un petit coup de mou, allez, c'est de la dépression. Dès qu'on n'est pas très bien avant ses règles, allez, c'est du trouble dysphorique. Voilà. Donc, on peut peut-être pathologiser, c'est un mot absolument horrible, mais un peu moins, ce serait pas mal.
Et est-ce que tu dirais que la ménopause est taboue alors, non ?
Pour moi, elle n'est pas taboue, j'ai pas l'impression. Elle est taboue, pas pour les femmes ménopausées, pour celles qui ne le sont pas encore. Et là, je me souviendrai toujours, j'avais été voir un copain homéopathe, je devais avoir 45 ans, il m'a demandé si j'étais ménopausée, mais j'avais envie de lui envoyer mon poing dans la figure. J'avais vécu ça très très mal, alors qu'aujourd'hui, je me définis comme une ménoptimiste, voilà, et en plus sexygénaire depuis que j'ai 60 ans. Donc non, pour les femmes ménopausées, je ne suis pas convaincue, en tout cas celles que je vois, que ce soit un tabou. C'est un tabou plutôt pour celles entre 40 et 50 ans, parce qu'elles en ont peur et elles n'osent pas en parler.
C'est quoi une ménoptimiste ?
Une ménoptimiste, c'est une femme qui est ménopausée et qui trouve dans la ménopause mais plein de choses positives. Je ne sais pas si on se rend compte que la ménopause, et ça a été démontré quand même par les psychanalystes, c'est une période extraordinaire de créativité. On ne peut plus créer d'êtres humains, puisque c'est la fin vraiment définitive de la maternité. Hein. Donc, ce qu'on avait comme potentiel de création en chair et en os, on va dire, on ne l'a plus. Mais on a déjà acquis une expérience quand même de 50 ans de vie. C'est souvent une période où on est un peu libéré quand même des obligations familiales. Et si on regarde, il y a énormément de femmes qui, à partir de 50 ans, ont pu être beaucoup plus créatives. Prendre mon exemple, je veux dire, c'est à partir de 50 ans, j'avais élevé mes 5 enfants, je me suis remise au violoncelle, c'était un vieux rêve, j'étais pianiste, et puis là j'ai mis le violoncelle, et puis depuis quelques années c'est l'accordéon, j'ai commencé à écrire, je me suis investie dans une fondation, voilà, il y avait le temps, la maturité, et l'envie de faire, et de créer, et d'énergie, on en a. Et il y a des femmes quand même, je dis des femmes par exemple comme Christine Lagarde, je trouve qu'elle a vraiment la pêche. Et c'est quand même une femme largement ménopausée. Donc on a une capacité, vraiment une créativité et ce qu'on appelle la sublimation en psychanalyse. Je ne peux plus faire d'enfants, mais je peux créer autre chose. Et ça, c'est formidable. Il y a de quoi se réjouir, à condition de quand même... être vigilante quant à son hygiène de vie, à sa qualité de vie. Parce que c'est bien gentil d'être créative, mais si je ne bouge pas, si j'ai mal partout, bon, je ne dis pas que j'ai jamais mal nulle part. Hein,
mais c'est le médecin en vous qui revient.
Voilà, il faut avoir, je dirais, manger correctement, être capable d'avoir une activité physique, savoir aussi prendre des temps pour soi, de tout ordre. Hein, je veux dire, qu'il soit spirituel, qu'il soit, je veux dire, au contact de la nature. C'est vraiment un tout et on a tous les outils pour le faire. Il ne faut juste pas être enquiquiné par ces fameux symptômes. Et là, normalement, on a des moyens pour les supprimer.
Vous disiez plutôt que vos patientes confondaient parfois ménopause et vieillissement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un double standard du vieillissement entre les hommes et les femmes ?
Le vieillissement, disons, pour les femmes, en fait, l'avancée en âge est ponctuée de manière cyclique. On a la puberté, on commence à avoir des règles, la ménopause, on n'en a plus. Ensuite, tous les mois, entre ces deux périodes, on remet l'ouvrage à zéro parce qu'on a eu ces règles, on recommence un cycle. Pour une grossesse, c'est la même chose. Donc, les femmes sont habituées à ce côté cyclique du temps et à devoir s'adapter au fur et à mesure. Et elles s'adaptent fort bien, au demeurant. Hein. Alors que pour les hommes, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes, la notion du temps, elle est interne. On l'a intégré dans notre corps, en fait, et du coup, dans notre tête. Alors que pour les hommes, la notion du temps est une notion déjà beaucoup plus linéaire, petit à petit, et qui est plutôt influencée par ce qui est à l'extérieur. On va dire qu'il y a un étayage extérieur. Dans le temps, c'était le service militaire, quand je me suis mariée, l'arrivée des enfants, mais pour leurs femmes. Et ils ont l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Moyennant quoi, ils ont souvent une politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir que, voilà, on vieillit. Et le jour où il y a un pépin de santé, c'est terminé. Ou la retraite, par exemple. Souvent, je l'entends de mes patientes, un homme qui se sentait surtout investi par rapport à son travail, le jour où le travail s'arrête, il n'est plus rien. Et il n'a pas développé d'autres choses autour. Et il n'est pas capable de se remettre en question. Ce que les femmes ont quand même beaucoup plus la capacité de faire.
Et puisqu'on parle d'hommes et de femmes, il y a un sujet qui est pas mal discuté à la ménopause, c'est celui de la sexualité. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlent vos patientes ?
Oui, alors ça, je crois qu'elles en parlent et Bon, pas forcément spontanément, mais moi, je pose toujours la question de la sécheresse vaginale. Alors, est-ce que vous avez de la sécheresse vaginale? Et je précise bien, comme ça, au quotidien ou au moment des rapports? Parce que la sécheresse vulvo-vaginale, on ne la sent pas, quand on va faire ses courses ou que sais-je. Mais on la ressent au moment des rapports sexuels parce qu'il y a effectivement une sécheresse de base, que la lubrification au moment des rapports, elle va mettre plus de temps à se mettre en route, qu'elle va être moins abondante. Il faut savoir que la lubrification, elle vient essentiellement du tiers postérieur, du fond du vagin, donc il faut du temps pour que ça arrive au niveau de la vulve, parce que c'est là qu'on va ressentir la sécheresse. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut penser au monsieur. Parce qu'autant les préliminaires pour madame, ce serait bien qu'ils durent un peu plus longtemps, parce qu'il lui faut plus de temps. Le monsieur, qui est peut-être plus toujours aussi vaillant qu'il n'était 30 ou 20 ans avant, eh ben, l'érection ne tiendra peut-être pas aussi longtemps. Donc lui, il aimerait bien que ce soit un peu plus court. Donc il va falloir accorder le tempo. Et donc ça, c'est vraiment une entrée en matière très facile sur la sexualité. Donc il y a la question pour la femme de la lubrification, donc de pouvoir fonctionner comme il faut. Et là, il ne faut pas hésiter à utiliser un lubrifiant. Et si on ne veut pas utiliser le lubrifiant, on peut bénéficier d'un traitement hormonal, soit par voie générale, soit par voie locale, qui va déjà améliorer les choses. Et puis, il faut en discuter un petit peu avec monsieur, de telle sorte que la lubrification puisse avoir le temps de se faire. Donc ça, c'est pour, je veux dire, fonctionner, entre guillemets. Et ensuite, il y a la question de la libido. Alors, la libido, quel que soit les âges de la femme, c'est toujours compliqué. Autant, alors je pèse mes mots, je caricature un peu, on va dire chez l'homme c'est très hormonal, un homme qui a de la testostérone, ou disons en prendre dans l'autre sens, un homme qui n'a plus de testostérone, par exemple traité pour un cancer de la prostate, n'aura plus de libido. Pas de libido, pas d'érection, ça va de pair. Alors qu'une femme, même si elle n'a pas trop de libido, elle peut fonctionner. Et donc la libido de la femme, elle est quand même très contextuelle. Elle est très contextuelle, elle est moins hormonale. Or, à la ménopause, l'équilibre hormonal de la femme, on va dire, il est un peu plus côté testostérone. C'est la testostérone, hein, c'est l'hormone de la libido. J'en veux pour preuve les trois poils au menton, par exemple. Donc, il y a une petite diminution, c'est vrai, globalement de la testostérone, mais l'équilibre en lui-même est plutôt de ce côté-là. Donc, la testostérone, pour des raisons hormonales, la libido, pardon, pour des raisons hormonales, n'a pas de raison d'être altérée. Et en plus, on est libéré et des règles, et des enfants, et de la contraception. Donc, c'est une période qui est tout à fait favorable pour la sexualité, sous deux conditions. La première condition, il faut que la sexualité avant la ménopause ait déjà été satisfaisante. Il peut y avoir quand même une petite période de turbulence, en particulier si au moment de vos ébats, vous avez des bouffées de chaleur et que vous dégoulinez de sueur, c'est sûr que ça va vous la couper. D'accord ? Donc, si avant ça se passait bien et si on s'entend bien avec le partenaire actuel, il n'y a aucune raison que ce soit moins bien. Bien au contraire. En plus, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait s'exprimer. C'est une période extra pour la sexualité. Mais il y a ces deux conditions. Et puis, il faut pouvoir lubrifier suffisamment parce que si ça fait mal, si c'est sec, et ça va couper l'excitation et tout va s'arrêter.
Ouais. Et ça, on n'hésite pas à en parler à son gynéco, du coup.
Oui, en espérant que le gynéco ne va pas être gêné par la question, parce qu'il y en a qui peuvent l'être. Mais je vois très souvent, c'est très marrant, parce que je vois des femmes qui étaient suivies par un gynécologue homme et qui, au moment de la ménopause, viennent plutôt me voir. Parce que mon copain, un gynécologue homme, il a la même à la maison et il ne sait pas quoi faire avec. Et ça, elle le sent très bien, mes patientes. Et du coup, on vient causer entre nanas, chose qu'on connaît bien quand même.
Bon, j'avais peut-être une dernière question ou deux dernières questions. La première, c'est quoi une sexygénaire ?
Une sexygénaire, c'est une femme qui a 60 ans et qui ne se sent pas moins femme pour autant, et qui a une sexualité qui est épanouie, et qui va essayer de rayonner par rapport à ça, et qui vraiment, mord la vie à pleines dents. C'est vraiment génial, profitons-en tant qu'on est en bonne santé. C'est vrai qu'un pépin de santé, ça peut nous tomber sur le coin de la figure un jour ou l'autre, mais on a vraiment toutes les capacités pour vivre notre vie pleinement dans tous ces domaines, même après 60 ans, et même quand on a une ménopause.
Donc, soyons toutes un jour ou maintenant ménoptimistes et sexygénaires.
Eh bien, c'est un bon slogan, ça.
C'est pas mal. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire aux femmes qui s'approcheraient de la ménopause ou qui sont en ménopause et qui nous écoutent ?
Alors, les femmes qui s'approchent de la ménopause, n'ayez pas peur, c'est pas si terrible que ça. Et d'une. Celles qui sont ménopausées, n'hésitez pas d'abord, écoutez-vous. Aucune raison de souffrir en silence et n'hésitez pas à poser la question du traitement hormonal si vous y avez droit et si vous êtes vraiment embêté par la fameuse sécheresse vaginale et ces horribles bouffées de chaleur quand vraiment elle vous réveille 10 fois la nuit.
Joli mot de conclusion. Merci beaucoup d'être venue sur Ménopausée, Odile.
Ben, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Et puis j'espère que tout le monde va se faire du bien en m'écoutant et ne subira pas la ménopause, mais la vivra avec plaisir.
J'en doute pas.